Le Centre de recherche sociale de la Haute École de travail social de Genève annonce le cycle de conférences « Midi de la recherche 2016-2017 » sur le thème « Précarité ». Session du 17 janvier 2017. Genre et non-recours aux prestations sociales. Le cas des familles en situation de précarité à Genève. Par Barbara Lucas, professeure. Première partie de 55 minutes, puis deuxième partie questions-réponses avec la salle, 45 minutes. Retrouve les podcasts sur www.libradio.org.
Barbara est professeure ici à la Haute École de Travail Social. Elle mène, elle va nous en parler, une importante recherche sur le non-recours des familles aux prestations sociales à Genève, en lien justement avec aussi l'ODENOR, qui est l'Observatoire des non-recours de Grenoble et qui est aussi une institution importante. Elle a par ailleurs travaillé sur les politiques sociales comparées, sur les politiques du CARE, sur le genre, et elle va faire un lien justement avec le genre aujourd'hui et son autre grande thématique, le non-recours, sur la politique, sur les réseaux d'action publique, de citoyenneté, de participation, et sur la question de la prise en charge des violences de type Alzheimer, de l'aide des soins à domicile. Elle vient de décrocher très gros programme du PNR, programme national de recherche dans le domaine justement du care cure, ok, non ?
C'est le titre ? Je ne sais plus.
Ouais, enfin soigner, guérir, étant donné que...
C'est sur le diagnostic des démences. En fait.
Voilà, démence. Alors pour aujourd'hui, c'est le genre et le non-recours. Ça se prête bien à cette question... à la question des précarités, puisque pas mal de gens qui sont précaires ne font pas recours, pour diverses raisons qu'elle nous expliquera, aux prestations sociales. Alors je lui donne la parole.
Merci beaucoup.
Et je dois rappeler aussi que les conférences sont enregistrées et qu'on entend même les petites voix qui font des commentaires.
Bien, merci. Merci beaucoup d'avoir bravé le froid pour venir jusque-là. Et du coup, les merci à Laurence et au CRS pour cette invitation. Ça va me permettre de partager avec vous des remarques et des réflexions qui, je vous le dis déjà, pour que vos attentes ne soient pas trop élevées, en tout cas, sont des réflexions exploratoires, effectivement en lien avec une recherche qu'on est en train de mener. Mais rendez-vous dans plusieurs mois, je dirais, pour des résultats substantiels. En parlant de froid et en parlant du fait qu'on est le 17 janvier, je vais commencer par une anecdote, si vous permettez. Vous savez que peut-être que l'année dernière, pratiquement à la même époque, David Bowie est mort. Il rigole déjà. Et en fait, ce que je ne savais pas, personnellement, c'est qu'il avait vécu assez longtemps en Suisse, je crois vers Lausanne. Et en tout cas, dans les années 1990, il habitait en Suisse et je crois que suite à un divorce, on parlera d'ailleurs de famille monoparentale, David Bowie était seul à Lausanne le 31 décembre. Et il est allé fêter le 31, un de ces soirs de décembre, avec Claude Nobst, vous connaissez, qui est l'organisateur, hein, qui est décédé aussi, du Montre Jazz Festival, qui a un chalet un petit peu en-dessus de Montreux. Donc il faut que vous imaginiez Claude Nobst et David Bowie fêtant le 31. Et les informations sont assez précises, ils ont regardé des films d'horreur. Et puis à un moment, David Bowie a dit « Ah, c'est ce qu'on va faire, c'est ce que j'aimerais faire. On va prendre ce champagne, et puis on va descendre à Montreux, et puis on va aller réveillonner avec des sans-abri. » Claude Nobst a dit « Oui, très bien. » Donc armé, imaginez, armé d'un magnum de champagne et d'un pavé de foie gras, voilà, David Bowie, mais c'est véridique, hein, qui arpente les rues de Montreux pour trouver un sans-abri, pour trinquer. Eh bien, voilà, il n'en a pas trouvé. Et l'histoire dit qu'il a été très déçu. L'histoire ne dit pas si c'est pour ça que peu après, il a déménagé, il a quitté la Suisse. Mais ceci simplement pour introduire le fait que le non-recours, évidemment, concerne effectivement cette relation importante entre l'offre publique de prestations, l'offre des politiques sociales et ces fameux destinataires. Nous verrons que cette question du non-recours se pose, je pense, de façon plus intéressante si on regarde la transformation actuelle des régimes de protection sociale et notamment leur dimension genrée, mais nous verrons aussi que, au fond, les analyses actuellement sur le non-recours ont très très peu thématisé cette dimension genrée. Donc, de façon assez exploratoire, je vous proposerai, dans la mesure du possible, quelques pistes et quelques hypothèses de travail que nous avons en tête actuellement dans le cadre de cette recherche. Donc, l'offre publique et ses destinataires, effectivement, la première chose que cette anecdote de David Bowie nous dit, c'est que le destinataire n'est pas toujours visible. Hein. On ne sait pas où est-ce qu'il aurait pu trouver la personne pour réveillonner, mais en tout cas, elle n'était pas dans la rue. C'est vraiment une question qui est très importante, qui a été, je dirais, d'autant plus importante en Suisse, où on a très longtemps, en quelque sorte, ignoré le phénomène de la pauvreté. Hein. Pogam le rappelle d'ailleurs très bien, cette pauvreté dite marginale, ou qu'on considérait comme marginale à l'époque du grand développement des États sociaux, cette vision de la pauvreté marginale comme des cas sociaux qui seraient en retard par rapport au développement social et économique, c'est, disons, a perduré en Suisse beaucoup plus longtemps que dans d'autres pays. Sauf erreur, le premier rapport sur la pauvreté, effectivement en Suisse, date de 1997. Donc on ne voyait déjà pas la pauvreté. On voit encore moins et on ne voit plus, on ne voit pas encore, pardon, le non-recours. Le non-recours en Suisse est une thématique encore largement sous-investiguée. Il y a ponctuellement 2 ou 3 recherches qui sont menées, mais par rapport aussi à d'autres pays européens, c'est vrai que de ce point de vue-là en Suisse, si les destinataires des politiques de lutte contre la pauvreté ne sont pas forcément visibles, les personnes qui, en plus, ne recourent pas aux prestations sont alors pratiquement invisibles. On pourra peut-être en parler lors de la discussion, mais du point de vue de la recherche, méthodologiquement, c'est un véritable défi que de les trouver. L'autre dimension, qui est peut-être pour aujourd'hui la plus importante, l'autre dimension qui est mise en avant dans cette histoire de David Bowie, c'est le fait qu'il y a réception et non-réception de l'offre. Hein. Il ne s'agit pas seulement de voir ou de ne pas voir, encore faut-il que l'offre, je dirais, soit adéquate et que les personnes s'en saisissent véritablement parce qu'elles correspondent, le cas échéant, à leurs attentes, à leurs besoins. C'est dans cette perspective que la recherche dont je vous parlais est menée actuellement. Donc nous menons cette recherche actuellement ici à la Haute École de Travail Social avec un partenariat avec la Haute École de Santé. Donc cette question du... Pardon. Oui, le titre. Cette question du non-recours. Qu'est-ce qu'on entend par non-recours? Il y a plusieurs définitions du non-recours. On va retenir une définition relativement large et relativement souple, disons, du non-recours, qui va bien ou qui correspond bien aux besoins, je dirais, d'une enquête qualitative. Le non-recours qui renvoie à toutes les personnes qui, en tout état de cause, ne bénéficient pas d'une offre publique de droits ou de services à laquelle elle pourrait prétendre. D'ailleurs, on voit là que ce terme de non-recours est relativement mal choisi, puisqu'il est plus large, au fond, que le fait de ne pas recourir, il renvoie au fait de simplement ne pas bénéficier. Je disais que c'est un phénomène sous-documenté, relativement invisible, peu problématisé. En Suisse, en tout cas, vous savez bien, on s'intéresse beaucoup plus, du moins politiquement, aux questions de l'abus qu'aux questions du non-recours, qu'au fait que des personnes qui ont des droits n'en bénéficient pas. Ça, ça n'a pas l'air de préoccuper beaucoup, en tout cas certains politiciens. Par contre, l'abus, notamment en lien avec l'augmentation du nombre de personnes à l'aide sociale, nous est rappelé quotidiennement. Cependant, le non-recours en lui-même et les travaux européens dont on dispose tendent en tout cas à nous l'indiquer. Le non-recours lui-même est un phénomène qui serait de grande ampleur, relativement significatif. On a des chiffres récents d'un rapport de l'Union européenne, entre 40 et 80% selon les pays, selon évidemment le type de prestation, mais il se pourrait bien que ce soit, y compris pour la Suisse, un phénomène en tout cas significatif. Des données très récentes qu'on a sur l'aide sociale, le taux de non-recours à l'aide sociale à Berne, menée par nos collègues d'ailleurs de la Haute École de Travail Social de Berne, viennent de sortir cet automne, donne 26,3% de taux de non-recours pour l'aide sociale à Berne, avec d'énormes différences entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Hein, puisque vous voyez, en milieu rural, on a des taux de 50% et en milieu urbain, de 12%. Donc, je le disais, le non-recours nous intéresse ici dans la mesure où c'est l'expression d'un rapport social à une offre, hein, du lien entre des destinataires potentiels et une offre sociale, une offre d'aide, en l'occurrence, de solidarité qu'on leur propose. L'exemple qui nous est donné des travaux français sur le revenu de solidarité active, qui au fond est donc un revenu minimum rattaché à une condition d'insertion, de volonté d'insertion professionnelle. On arrivait en 2010, les chercheurs arrivaient à des taux de non-recours pour cette prestation, quand même une prestation centrale dans le dispositif français, de 50%. Et quand des études ont été menées par questionnaire, en tout cas par sondage, sur les motifs de ce non-recours, qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'une grande majorité des réponses, c'est les pourcentages de réponses, pas les pourcentages de personnes, hein, renvoie, ou en tout cas des personnes vont renvoyer au manque d'informations. Donc c'est clair que c'est la première explication qui est donnée dans la plupart des recherches. Le manque d'informations vient dans les explications que les personnels même donnent. Il y a une part de 20% qui évoque la complexité des procédures, la complexité administrative. On le sait, hein, il y a même pour des personnes de niveau de formation élevé, en l'occurrence en Suisse, le système de protection sociale reste d'une complexité incroyable. Donc, c'est un des facteurs importants. On voit aussi qu'il y a un autre type de réponse qui renvoie à « oui, j'ai d'autres plans, j'ai d'autres possibilités de m'en sortir ». Donc, des stratégies qui sont des stratégies alternatives à celles de demander, de recourir à une offre financière. Et puis, quelque chose qui intéresse beaucoup les chercheurs actuellement de l'Observatoire des non-recours de Grenoble, qui renvoie à ce qu'on appelle la non-demande, le fait qu'une bonne partie, 27%, près d'un tiers des réponses mentionnées, ont à voir avec un refus de principe, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas tant subi que quelque chose qui relève du, disons, de la non-acceptation, au fond, de l'offre proposée. Hein ? Non, merci David, je ne bois pas.
J'ai une question à vous poser, c'est possible ?
Si vous voulez, je ne voudrais pas simplement que ça prolonge trop, mais oui.
Dans la définition de non-recours, c'est sûr qu'il y a tout état de cause de ne pas bénéficier, même si c'est lié à un manque d'information de manière générale. Est-ce que c'est finalement un non-recours ou pas ?
Oui, c'est un non-recours aussi, effectivement. C'est considéré dans cette approche-là comme un non-recours. Vraiment, disons, dans ce sens-là, c'est une approche assez englobante, qui d'ailleurs va même parfois au-delà, en tout cas va très largement au-delà de ce que des quantitativistes ont utilisé comme définition beaucoup plus stricte du non-recours. Donc, ce que cela nous dit, ce que ces données nous disent sur les raisons du RSA, c'est qu'il y a vraiment différents types de non-recours et que ces différents types de non-recours vont renvoyer un rapport à l'offre différent et donc un rapport aux politiques différents. L'ODENOR actuellement, donc l'Observatoire des non-recours de Grenoble, propose la typologie suivante. Pendant longtemps, ça a été une typologie à trois catégories donc, de non-recours, et puis ils viennent d'ajouter une quatrième. On peut se discuter, mais du coup, je vous donne la version la plus actuelle de la typologie. La première grand type de non-recours donc ferait référence effectivement à la non-connaissance, soit une non-connaissance de l'offre elle-même. Pensons, pour donner un exemple au hasard, aux prestations complémentaires famille, à Genève, la plupart des personnes que nous rencontrons ignorent leur existence, ou alors ont appris leur existence via les associations, qui d'ailleurs ont en quelque sorte comme mandat informel d'informer, effectivement. Non-connaissance des prestations, non-connaissance des critères d'accessibilité et des démarches précises pour pouvoir les obtenir. La non-proposition, qui est ce type nouveau qui vient d'être ajouté par l'Observatoire des non-recours de Grenoble, qui renvoie au fait que l'offre soit connue ou non, ils se sont aperçus que les professionnels, pour le dire comme ça, les professionnels du travail social jouaient un rôle très important dans le non-recours. Et notamment, parfois, de façon d'ailleurs tout à fait volontaire, ne proposaient pas d'offre. Sachant que cette offre existe et que la personne pourrait éventuellement entrer dans les critères, préfère ne pas la proposer, notamment pour des raisons de type « cette personne n'est pas prête à entrer dans ce type de processus, j'attends » ou « on attend ». Donc la non-proposition, ça peut aussi être dû, on a des échos d'ailleurs dans ce sens du terrain, notamment à Genève, parfois ça peut aussi être dû au fait que les professionnels eux-mêmes ne connaissent pas ou connaissent mal. Les possibilités, l'éventail des possibilités, et donc n'oriente pas la personne vers la bonne. La non-réception, qui fait référence à une offre qui est connue, qui est demandée, quel que soit le parcours de la personne qui va la demander, mais qui au final ne sera jamais touchée, si vous voulez. La prestation ne sera jamais touchée, ou ne sera pas pour le moment touchée, pour différentes raisons, là aussi, certaines personnes, par exemple, font une démarche une fois, enfin, font un premier pas ou un deuxième pas, et puis s'arrêtent découragées, on peut imaginer, par toute une série de papiers à remplir. Hein. Combien de personnes nous ont dit « Oh mon Dieu, je suis allée, j'ai pris les infos, j'ai... puis on m'a dit qu'il fallait revenir avec ça, 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 ça. » Bon. OK. Et puis, ce qui nous intéresse beaucoup, nous aussi, la non-demande, donc... ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que l'offre, elle est connue, mais la personne ne souhaite pas la demander. Elle ne veut pas la demander pour des raisons qu'on peut appeler plutôt de non-recours volontaire passif, ça c'est Fonarchoff qui avait cette division, passif-actif, disons, ce serait de dire plutôt de façon subie, c'est effectivement rien que l'idée, c'est trop compliqué, le coût est trop grand, je préfère ne pas, ou pour des raisons plus actives, au sens de « tout bien réfléchi, cette offre ne me convient pas ». Donc ça, c'est un champ de recherche qui est en pleine expansion, je dirais, cette question de la non-demande, parce que c'est quelque chose qui a aussi été relativement négligé dans les travaux jusqu'à maintenant, peut-être aussi du fait que ça nous questionne ou ça questionne les professionnels. On peut ne pas vouloir trinquer avec David Bowie, je ne sais pas. Mais rien que l'idée, dans le, hein, si cette anecdote nous fait assez rire, c'est parce qu'on peut. Moi, a priori, je pense surtout aux pauvres, je ne sais pas, aux pauvres sans-abri qui, justement, étaient allés faire pipi à ce moment-là, et puis David Bowie passait, puis voilà. Il a raté l'occasion, génial. Mais en fait, de réfléchir au fait que peut-être non, en fait, cette offre aurait été véritablement refusée, car ne correspondant pas aux attentes de la personne. Alors, cette question-là, pardon, je vais tout petit peu s'il veut. Ce qu'on voit, c'est que non-connaissance, non-proposition, non-réception, du point de vue de leur signification pour les politiques publiques, je pense que ça questionne véritablement l'accès aux droits, l'accès aux prestations. Et c'est vrai que si on réfléchit en termes de solutions, ce sont ce type de solutions qui sont souvent proposées. Comment peut-on favoriser l'accès à une offre qui, au fond, en elle-même, n'est pas remise en question. La non-demande, par contre, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, a un potentiel critique beaucoup plus important, puisqu'elle questionne l'acceptabilité, pour le dire comme ça, ou la pertinence de la politique, renvoie à son contenu même. Alors, comment est-ce que cette question d'acceptabilité se pose actuellement ? Comment est-ce qu'on pourrait la poser actuellement ? Il faut imaginer la transformation des états sociaux qui est en cours depuis plusieurs dizaines d'années, hein, depuis en tout cas les années 80, et voir comment cette transformation, qui au fond participe d'une forme d'adaptation à la transformation du contexte social et économique, comment est-ce que cette transformation peut avoir un impact sur les destinataires de ces offres? Et les grandes lignes de cette transformation, quelles sont-elles? Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on a effectivement une redéfinition majeure du rapport entre le travail et la protection sociale. On sait, hein, que les nouvelles politiques sociales s'orientent véritablement vers une remise sur le marché du travail, c'est l'emploi qui est l'horizon. On a une conditionnalité accrue des prestations, y compris en Suisse, donc une baisse d'ailleurs de niveau des prestations dites universelles, et puis des politiques qui tendent à devenir toujours plus conditionnelles, conditions de ressources, conditions de vie sur le territoire, etc., etc. De l'aide sociale, on passe à une forme d'aide sociale qui vise l'intégration sur le marché de l'emploi. Donc ça, une grande tendance de fond qui est beaucoup discutée dans la littérature sur les états sociaux et qui, peut-être on l'oublie des fois, ou peut-être, c'est ça qu'il faut, je pense, souligner, au fond, ça c'est nouveau quand même, vise officiellement de la même manière, ou s'adresse au fond officiellement de la même manière aux hommes et aux femmes. Hein? Donc on a cette transformation de ce régime de monsieur gagne-pain, disons, vers quelque chose d'autre, et cette fois, ça y est, on a égalisé en quelque sorte le droit, on a égalisé la démarche, et on s'adresse de la même manière aux hommes et aux femmes, et dans le cadre de cette transformation, de cette deuxième transformation, qui est beaucoup plus discutée là dans la littérature féministe, critique sur l'état social, d'une transformation entre ce qu'on appelle la reproduction donc des enfants, mais aussi des liens sociaux, care, soins aux personnes dépendantes, et la production, effectivement, ce fameux monde du travail. Donc, ce qui est en train de s'imposer, ou en tout cas le discours dominant qui s'impose via les organisations internationales, via l'Union européenne, etc., c'est le fameux modèle du familial du double revenu. Hommes et femmes travaillent pour subvenir aux besoins de la famille. Et je pense qu'on peut le mettre en troisième, même si ça peut être intégré aux deux autres. Il y a parallèlement cette diffusion, vous verrez pourquoi je le sépare tout à l'heure, il y a quand même parallèlement cette diffusion du modèle égalitaire homme-femme, perte de légitimité, pour le dire comme ça, du modèle patriarcal, hein, critique du sexisme, etc., etc., qui contribue à transformer ces états sociaux-là. Donc on est dans ce contexte-là, on a ces transformations-là, et la question peut se poser, il me semble, simplement de se demander quelle adéquation ces nouvelles politiques, comment est-ce que ces nouvelles politiques s'adaptent, au fond, aux nouvelles situations, puisque ça devrait être leur but, d'ailleurs, des hommes et des femmes, sachant que, et on y reviendra, les inégalités structurelles, les inégalités sociales structurelles, elles, sont toujours là. Hein? Donc on a vraiment une permanence des inégalités sociales structurelles, au fond, alors qu'on a une transformation des régimes de protection sociale qui prône, quand elle ne l'applique pas véritablement, en tout cas, elle prône une égalité homme-femme. Donc comment est-ce que ces nouvelles offres sont perçues dans le cadre de ce qu'on appelle les nouveaux risques sociaux, parmi lesquels, donc par contraste avec les risques traditionnels comme le chômage, comme la maladie, comme le handicap, les nouveaux risques sociaux, qui sont ces nouvelles situations qui, au fond, en tout cas, n'étaient pas thématisées à l'époque de la création des États-providence, le fait qu'il puisse y avoir des travailleurs pauvres, qu'on puisse travailler et être pauvre, le fait qu'on puisse être une famille, mais monoparentale. Et ces situations-là impactent, évidemment, différemment les hommes et les femmes, notamment, bien sûr, les familles monoparentales, vous le savez, qui sont plus que majoritairement, je ne sais pas, 90 et quelques pourcents composés de femmes. Donc si on pose la question comme ça, on peut simplement déjà aller faire un petit tour de la littérature sur le non-recours pour voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça. Et alors, je n'ai pas du tout la prétention à l'exhaustivité, mais néanmoins, un premier tour sur la variable, pour commencer comme ça, disons modestement, la variable sexe. Est-ce que les femmes et les hommes seraient différents face au non-recours? Dit autrement, est-ce que les femmes ou les hommes feraient plus ou moins recours? Alors, il y a des indices qui laisseraient penser que, sous toute réserve, peut-être que, dans certaines conditions, les hommes auraient tendance à faire moins recours que les femmes. Mais de cette variable sexe, en fait, quand on va regarder, là, je remercie Eric Creta, mon collègue qui n'a pas pu être là, mais qui a fait tout un état de la littérature sur cette question. voient pas d'effet perceptible ou des chercheurs nous confirment qu'il n'y a pas statistiquement d'effet véritablement perspective de la variable sexe sur le non-recours. Ou que lorsqu'il y a variation statistiquement significative, parfois c'est plus de femmes, parfois c'est plus d'hommes, en fait ça dépend. Ça varie selon les prestations, ça varie selon les pays, ça varie selon les contextes, les conditions, hein, avec ou sans enfants, etc. Donc, ça varie même selon les modèles statistiques. Donc, beaucoup d'incertitudes sur la variable sexe, quelques demi-certitudes sur l'importance du type de ménage, le fait que des couples avec enfants auraient un non-recours supérieur à la moyenne. Donc, quand on est en couple et qu'on a des enfants, on recourrait moins. On recourrait parce que vraiment là aussi, sous toute réserve. Le fait que les ménages monoparentaux recourraient, pour le dire comme ça, plus. Ce serait assez logique, disons, si on se dit que la marge de manœuvre alternative est relativement limitée dans ces cas-là. En tout cas, ces résultats, et notamment ces résultats contradictoires quant à l'effet de la variable sexe sur le non-recours, plaident pour une analyse de combinaison de facteurs, lien à l'emploi, type de ménage, enfant, statut notamment par rapport à au permis, hein, qui, bien sûr, influence, conditionne l'attitude, si vous voulez, des hommes comme des femmes vis-à-vis de l'offre. Ça, c'est pour la variable sexe, si vous voulez, et les études plutôt statistiques. Si on regarde maintenant si la question du genre, en tant que rapport social, a été thématisée, toujours dans la littérature sur le non-recours, eh bien, on va s'apercevoir qu'elle a été très très peu, sauf rares exceptions, je dirais, ou à ce stade de mon état de connaissance, pratiquement pas thématisée. Il y a quatre grandes familles d'explications, c'est, disons, ma manière de synthétiser cette littérature, elle vaut ce qu'elle vaut. Quatre grandes familles d'explications du non-recours qui sont mobilisées dans cette littérature. D'un côté, des facteurs plutôt d'ordre sociaux qui sont mis en avant, des mécanismes d'ordre sociaux, et puis un autre courant de la littérature qui va plus insister sur des mécanismes institutionnels, sur le rôle des politiques, si vous voulez, eux-mêmes. Ce qui est vraiment intéressant, à mon sens, de voir là, c'est que l'un comme l'autre, ce sont des littératures qui sont extrêmement riches, si vous voulez, en termes de rapports de genre, que ce soit sur les états sociaux, que ce soit sur la sociologie de la pauvreté. On a beaucoup de choses sur des rapports de genre, en tout cas la sociologie elle-même. Mais dans la littérature sur le non-recours, c'est, je dirais, un angle mort. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le faire brièvement? On a tout un courant de littérature, notamment en France, ça a démarré très fort avec ça, autour des inégalités sociales dans l'accès aux droits. Et là, ce qui était amené, le premier texte français qui parlait de non-recours, d'Antoinette Catrice Loret, 1976, qui avait commencé à pointer ce problème, entrait par les inégalités sociales dans l'accès aux droits et thématisait ce qu'elle a appelé à l'époque la pauvreté culturelle. J'ai mis ce terme en avant parce que je pense que c'est assez significatif d'une vision qui est de dire on thématise le non-recours en termes d'inégalité et on thématise l'inégalité en termes de manque. Manque de ressources, que ce soit des ressources sociales, des ressources culturelles, hein, la langue, la difficulté d'intégration, etc., etc., le rapport aux administrations, dont beaucoup de choses ont été théorisées là autour. Le lieu d'habitat aussi, difficulté aussi à joindre les lieux où l'offre est proposée, très important. Mais très peu, voire pas à ma connaissance, en tout cas c'est certainement pas la poche dominante, de réflexion systématique sur les rapports de genre, les inégalités de genre. Alors un autre champ qui s'est beaucoup développé autour du non-recours, dans plusieurs pays européens, et on a des résultats d'ailleurs là-dessus sur la Suisse, ou en tout cas une prise de position, c'est le poids, je dirais, des normes sociales dans la non-demande. Donc les inégalités sociales dans l'accès aux droits, c'est toutes les barrières qui font que, effectivement, on n'est pas tous égaux devant, par exemple, les formulaires incompréhensibles des prestations complémentaires famille. Si jamais vous les imprimez une fois, puis vous regardez, vous avez beau avoir fait un doctorat, vous n'y allez pas. Donc, si en plus vous ne parlez pas le français, que vous n'avez pas vraiment fait d'études, vous oubliez, ça c'est clair. Les normes sociales, c'est autre chose. Ça a été beaucoup thématisé dans le cadre d'une littérature sur le welfare stigma, donc la stigmatisation liée au fait d'être dépendant de l'État social. Hein, courant américain, notamment très fort, qui était lié au départ à la stigmatisation des familles afro-américaines, qui, au fond, étaient celles qui auraient eu le plus besoin des prestations et qui étaient celles qui, paradoxalement, ne les demandaient pas. Donc, tout un travail sur la stigmatisation pour les résultats suisses, dans un travail tout à fait précurseur de Rossini, et il y avait, je crois, d'ailleurs, Franière dans l'équipe à l'époque, en 2004, qui s'appelait, je ne sais plus comment, Pauvreté cachée, quelque chose sur la pauvreté cachée, sur la base d'entretiens avec des professionnels, donc pas avec des personnes directement concernées, mais avec des professionnels, qui avaient reconstitué environ 150 récits de vie, eh bien, un des facteurs explicatifs très forts, c'était effectivement la honte de se retrouver à l'aide sociale. Et cette honte était une raison suffisante pour ne pas vouloir demander d'aide. Hubelin, dont j'ai cité les chiffres tout à l'heure sur Berne, a fait récemment donc une étude statistique très systématique pour essayer de tester ça aussi. Est-ce que la stigmatisation, au fond, joue un rôle? Et lui, il considère qu'on peut mesurer, en fait, le degré de stigmatisation potentielle d'être à l'aide sociale à la part ou à l'importance d'un parti comme l'UDC dans les communes. Et donc, par toute une série d'analyses statistiques que je ne serais pas capable de vous expliquer, il arrive, de façon, en tout cas, bonjour, semble-t-il, assez convaincante, à la démonstration que, oui, plus les partis qui font leur fonds de commerce, si vous voulez, contre l'abus, etc., de l'aide sociale sont importants, eh bien, plus il y a de non-recours. Ce qui plaide pour... Et puis, il contrôle les autres variables, donc ça plaide pour un rôle indépendant de la stigmatisation. Dans une perspective légèrement différente, on peut imaginer aussi la contestation des normes, c'est-à-dire pas seulement la honte ou la peur de la stigmatisation, mais des travaux, notamment en France, comme je vous le disais, qui essayent de réfléchir au fait qu'on peut ne pas être d'accord avec les présupposés de ces offres publiques. Et puis, du côté des facteurs institutionnels, on a toute une série de travaux qui se sont intéressés au type de prestations, au montant et aux durées des prestations, et là c'est très clair, plus le montant est important et plus la prestation peut durer longtemps, moins il y a de non-recours. Les critères d'éligibilité ont été analysés, et notamment ce dont je vous parlais tout à l'heure, la conditionnalité des prestations. Et là c'est toute une série de travaux qui ont montré le lien, ou qui en tout cas qui ont eu pour but de dénoncer en quelque sorte des politiques qui étaient des politiques de ciblage. C'est pour ça qu'on a beaucoup dans la littérature un lien entre le ciblage des prestations et le non-recours à travers le welfare stigma, la stigmatisation. Ciblage serait égal à stigmatisation qui serait égal à non-recours. Ce qui peut être discutable, puisque le ciblage en lui-même est une technique comme une autre, qui pourrait bien ne pas stigmatiser. Mais voilà. L'activation, tendance, comme je le disais, donc des nouveaux programmes à associer à la prestation une contre-prestation qui est en quelque sorte de montrer qu'on essaye de s'insérer sur le marché du travail, toute une série de conditions qui peut aussi générer du refus de la part des destinataires potentiels. Tout ça a été bien travaillé, expliqué, développé, mais là aussi, on trouve très peu, voire pas, trace de réflexion en termes de genre. Dernière grande famille de travaux où on peut aller chercher des réflexions en termes de genre, d'autres grands facteurs explicatifs, si on descend en quelque sorte au niveau de la mise en œuvre de ces politiques, les organisations elles-mêmes, la façon dont elles sont plus ou moins ouvertes, donc des facteurs d'ordre administratif. Pour la Suisse, toujours une équipe bernoise ont bien montré que c'était des facteurs qui pouvaient jouer un rôle. Pensons aux horaires d'ouverture, par exemple, tout simplement, hein, qui jouent un rôle tout à fait clair dans le recours ou le non-recours des personnes. Et puis le rôle des professionnels eux-mêmes dans leur marge, disons, de manœuvre et leur capacité à, au fond, volontairement ou non volontairement, même ça peut aussi être volontairement, dissuader. Alors là, ça peut être des professionnels, mais la critique peut remonter au niveau de la politique elle-même, puisqu'on sait que la dissuasion, hein, est un instrument de gouvernement, et pas uniquement, bien sûr, dans le champ du social. Pensons de façon tellement claire aux politiques des migrations, hein, dissuader les gens de venir, ça peut être une façon. Donc, générer du non-recours, hein, du non-recours comme produit de politique. Donc, tout ça pour arriver à deux constats assez basiques, c'est que cette littérature sur le non-recours, à de rares exceptions près, et sous toute réserve, peut-être que je vais encore trouver qui m'ont échappé, ignore l'impact des normes de genre égalitaires qui est au cœur, je dirais quand même, de la transformation de la protection sociale, qui touche les critères d'accès, puisqu'on a une égalisation des critères d'accès dans le droit entre hommes et femmes, des politiques qui sont des politiques d'égalité qui ont été mises en place en Suisse relativement tardivement, mais quand même depuis la fin des années 90, des diffusions des normes antisexistes, et elle tend aussi à ignorer de l'autre côté le rôle des inégalités sociales de genre, cette permanence au fond des inégalités sociales de genre, dans un contexte de diffusion d'égalisation des droits et de diffusion des normes d'égalité. Hein, voyez ? Et c'est ce décalage-là qui me semble intéressant à interroger, puisque ce décalage-là, à mon sens, peut générer une certaine forme de non-recours que l'on devrait pouvoir lire, au fond, dans des attitudes par rapport à l'État et à son offre et dans des formes de non-recours genrées. Donc, quelques éléments pour aller encore un pas plus loin dans cette analyse, sachant qu'on ne sait pas grand-chose à ce stade. Comment est-ce qu'on pourrait penser ce non-recours de façon genrée ? D'abord, il me semble que c'est très important de sortir d'une approche exclusivement en termes de manque, même si elle est légitime, hein, c'est-à-dire il est clair que... Si on entre par cette approche en termes de non-demande, alors il nous faut une démarche véritablement compréhensive sur la manière dont des personnes vivent la précarité et sur la manière dont elles ont des stratégies pour se sortir de cette situation de précarité. Et c'est seulement dans ce contexte-là que le non-recours prend sens, si vous voulez. Donc comprendre le non-recours dans le cadre de l'expérience que les femmes et les hommes font de la précarité, mais aussi, puisque le non-recours, ce n'est pas seulement l'expérience de la précarité, c'est l'expérience ou en tout cas une certaine perception attente par rapport à l'état social. Donc là aussi, comprendre cette position par rapport aux politiques, par rapport à l'état social. La dimension proprement subjective dont je suis en train de vous parler, de ce rapport à la précarité et aux politiques, a été relativement peu étudiée. En tout cas pas, c'est pas qu'elle a été peu étudiée, elle a été étudiée, mais relativement peu sous l'angle du genre. Et il y a un ouvrage qui est paru en 2015 par une équipe de chercheurs français, dont Nona Meyer et Cécile Braconnier, je crois, qui nous offre, il me semble, des pistes vraiment intéressantes. Ils ont mené des entretiens dans un cadre un peu différent. Ils ont mené beaucoup d'entretiens. Ça s'appelle les inaudibles. Et ils ont mené des entretiens avec une centaine de personnes, je sais pas, 50 femmes ou 59 femmes et 50 hommes. Donc assez considérable corpus autour du rapport aux politiques de personnes qui sont dans des situations de précarité importantes en France. Et ils se sont aperçus, ce qui est vraiment aussi intéressant pour ce que j'essaye de dire, ils se sont aperçus, sans même l'avoir voulu, qu'il y avait une forte dimension genrée dans ces résultats, ce qui fait qu'ils ont repris leurs résultats pour essayer de les faire parler sous l'angle du genre. Et je pense que ça nous donne des pistes pour l'analyse, l'interprétation, ou en tout cas des hypothèses pour la manière dont nous pouvons saisir et analyser les résultats qu'on est en train de traiter actuellement sur Genève. Donc je ne dis pas que ce que je vais vous dire maintenant vaut pour Genève, mais simplement que c'est des pistes vraiment intéressantes à garder en tête. Les résultats qu'ils ont trouvés, pour le simplifier vraiment par rapport aux questions qui nous occupent maintenant, d'abord ce rapport genré à la précarité, qu'est-ce qui ressort fortement de leur travail et comment est-ce qu'on peut peut-être élaborer un peu à partir de ça. Bon, un rôle sexué de la séparation dans les trajectoires de précarisation, c'est-à-dire que le moment de séparation d'un couple ne joue pas le même rôle dans la trajectoire de précarisation pour un homme ou pour une femme. Pour le dire simplement, pour un homme, la trajectoire de précarisation aura commencé avant ou commencera après. C'est une sorte d'autre histoire. Pour la femme, dans la plupart des cas, c'est le début ou c'est le moment de fragilisation économique. Par contre, pour l'homme, c'est une précarisation plutôt au sens social. Ce qui ressort, c'est une fragilisation sociale. Donc le début, pour certaines personnes en tout cas, beaucoup plus fortement pour les hommes, d'une fragilité effectivement en termes de liens sociaux. On a vu que les liens sociaux, l'isolement notamment, a été montré comme un des facteurs qui pouvait expliquer le non-recours. Les personnes qui sont dans des situations de précarité importantes ont un rapport au travail soit très distant, soit pratiquement inexistant. Et ce que ces chercheuses ont montré très bien, c'est la façon dont, dans les entretiens, les femmes et les hommes mobilisent totalement différemment des identités donc, pour justifier, expliquer, rendre compte de leur rapport au monde du travail. Sans surprise, on a envie de dire, mais néanmoins, ça reste très significatif, les femmes mettent en avant leur identité de mère très fortement, ne thématisent le travail qu'à travers leur identité de mère, hein, notamment avec la problématique de la fameuse, entre guillemets, conciliation travail-famille, de mère et de travailleuse. Et ce qui est important là, c'est que vous avez déjà au moins, je pense qu'on peut en trouver plus dans les résultats qu'on a déjà, mais vous avez déjà au moins deux identités possibles sur lesquelles vous pouvez, en quelque sorte, jouer. Les hommes thématisent pratiquement, nous disent ces chercheuses, ne thématisent pratiquement pas leur identité paternelle, en tout cas pas spontanément, mais viennent, et ça on le voit nous dans les quelques entretiens avec des hommes qu'on a menés, viennent très spontanément, même s'ils sont en fin de droit de chômage depuis des années, avec une identité professionnelle. J'ai eu été ceci, j'ai fait cela, ou, nous on l'entend maintenant, j'essaye de m'en sortir de telle et telle façon, je reste un travailleur avant tout. Et la conséquence, et bien, ce qui est important là aussi, c'est que c'est une identité qui semble être une identité en quelque sorte contrainte, c'est-à-dire que la marge, les possibilités de mobiliser d'autres formes d'identité sociale semblent être beaucoup plus réduites pour les hommes que pour les femmes. Du coup, il y a des impacts de cette mobilisation différenciée des identités qui sont ambivalents du point de vue des mères et du point de vue donc cas des mères, quand les femmes mobilisent leur identité de mère pour agir, hein, c'est-à-dire, ce que ces chercheuses françaises nous disent, c'est qu'au fond, il y a un rôle ambivalent. Dans certaines trajectoires, c'est quelque chose qui est un facteur structurant. Les enfants, l'horizon de futur que ça signifie, la nécessité de cadrer le temps, d'être structuré dans sa journée, d'aller vers, effectivement, des institutions, de sortir, d'avoir des liens, qui pousseraient ces mères, en tout cas, à rester, en quelque sorte, intégrées, qui pourraient, d'ailleurs, en toute hypothèse, favoriser du recours à des prestations sociales. Mais on voit aussi, de nouveau, ça doit être, ça dépend des configurations, des types de situations des mères, mais on voit aussi la possibilité inverse, en quelque sorte, de l'oubli de soi, qui est qu'à force de vouloir se concentrer sur les enfants, ces femmes, certaines femmes entrent dans une trajectoire où leurs propres intérêts n'existent plus. Et on peut avoir là des trajectoires qui relèvent plus du repli. Du point de vue des hommes, c'est esquissé dans ces travaux. Moi, je pense qu'il faudrait le creuser beaucoup plus. À mon avis, il y a là quelque chose à tirer vraiment. Ce qu'on a, c'est donc, en l'absence de modalités, disons, de modalités d'être, comme je le disais, ou d'identités alternatives qui sont socialement légitimes, les hommes auraient tendance, donc je le disais, à renforcer leur identité professionnelle, mais aussi à renforcer dans leur discours, du moins, et à travers les, mais pas seulement, j'imagine, les canons de la masculinité, de la virilité. Ça peut aller aussi à des formes de violence, à des formes de domination, etc. Ça rejoint les travaux de Connell sur les masculinités, où une forme de masculinité de ce type s'explique justement en situation de perte de légitimité du patriarcat, où on se raccroche en quelque sorte à ce qu'on a, et ce qu'on a, c'est cette virilité-là, c'est cette force-là. Donc on pourrait imaginer, là c'est vraiment à titre d'hypothèse totale, mais moi, j'ai une hypothèse, je ne sais pas du tout ce que ça a donné, parce que c'est seulement quelques entretiens et pas. Mais j'ai vraiment une hypothèse, c'est que l'allégorie de la caverne de Platon, c'est Platon, a vraiment toute sa signification-là. J'ai des tas d'exemples, pas des tas, j'ai plusieurs exemples, de trajectoires masculines de non-recours, avec en perspective, si ce n'est en réalité, une trajectoire de sortie, une trajectoire de repli. Et dans un des cas, quand je parle de l'allégorie de la caverne, il faudrait le creuser, mais c'est tout à fait concret, c'est une grotte au Salève. C'est-à-dire, je me retire, et au pire, si je quitte ma femme, j'irai vivre dans ma grotte au Salève. Ça prend d'autres formes que la grotte. Ça peut être, je retournerai dans mon village. L'assistant, là, Jérôme, qui est en train de mener un entretien maintenant, m'a dit que lui, il avait entendu quelqu'un qui lui disait, moi, si jamais je rentre dans mon village en Afrique, je ne sais pas où. Mais pour moi, c'est la même chose, cette espèce d'idée qu'on se retire. Le rapport genré aux politiques, donc un rapport différent à la précarité avec des stratégies différentes qui pourraient expliquer ce rapport aux ordres sociaux. Un rapport genré aux politiques, ce qu'on voit, c'est qu'il y a très clairement un rapport genré aux administrations. Si on essaye de neutraliser en quelque sorte l'impact des facteurs de type langue, origine, nationalité et autres, il y aurait une répartition des tâches administratives, je crois que plusieurs travaux ont pu le montrer pour les classes dites populaires, où au fond, vous savez, d'ailleurs pendant longtemps, les hommes avaient la responsabilité, avaient des responsabilités en quelque sorte importantes à des niveaux de décision importants, hein, de pouvoir, puis les femmes avaient en Suisse ce qu'on appelait d'ailleurs le pouvoir des clés. C'est-à-dire, il fallait bien quand même qu'elles puissent aller venir et remplir le frigo, donc il fallait quand même qu'elles puissent gérer un peu le budget, signer les factures, etc. Ce pouvoir des clés, ce pouvoir qu'on a pu donner aux femmes, en tout cas, semblerait-il aussi dans les classes populaires, se traduit par une séparation dans les tâches, où les tâches administratives sont plus gérées par les femmes que par les hommes. Et ça, c'est une piste aussi d'explication d'une familiarité des femmes avec le monde administratif, du fait qu'elles iraient peut-être plus facilement au guichet, comme on dit, et qu'à l'inverse, à force d'aller au guichet, de fréquenter, etc., acquerraient certaines compétences qui leur permettraient peut-être de se sortir de situation en mobilisant différentes ressources de façon plus efficace peut-être que les hommes. Il a été noté dans ces travaux, donc à partir de ces entretiens dont je vous parlais, que beaucoup de femmes avaient une attitude, en tout cas à travers les entretiens, beaucoup plus combative par rapport aux administrations, voire par rapport aux politiques d'ailleurs, on le verra, et que c'était à relier avec la présence ou pas d'enfants. On est dans c'est vraiment un peu le cliché de la louve et de ses enfants, de la lionne, mais il semblerait que ce soit quelque chose qui est ressorti. C'est quelque chose qui est assez frappant là aussi, sous toute hypothèse dans les entretiens qu'on est en train de mener, cette force effectivement de femmes qui vivent seules, qui dans des conditions objectives de vie absolument inimaginable, avec des faibles ressources, si on parle de ressources incroyables, et qui sont porteuses en quelque sorte d'une énergie et d'une vision stratégique, pour reprendre cette idée de Delcroix, qui dit attention, c'est pas seulement des tactiques, les pauvres qui sont contraints à s'ajuster au moment présent, mais qui ne peuvent pas avoir de vision. Non, non, des stratégies très puissantes, et qui peut-être, en toute hypothèse, se heurtent à l'inadaptation des offres qui n'entreraient pas justement dans le cadre de ces stratégies. Politiquement, dans ce livre de Nona Meyer, enfin coordonné entre autres par Nona Meyer, ce qui les intéressait beaucoup, c'était le lien aux politiques, le lien d'ailleurs au vote, hein. Et par rapport à des questions qui pourraient intéresser nos recours, il y a des revendications, nous disent-elles, qui sont des revendications politiques qui sortent spontanément des entretiens des femmes, qui ne sortent pas des entretiens des hommes. De type, les dispositifs d'aide locaux, les collègues français soulignent que ce sont là des dispositifs locaux, qui sont véritablement mis en cause par ces femmes, souvent des mères, parce que inadaptées à leurs besoins. Et quand je dis leurs besoins, c'est quelque chose qui est intéressant à faire, c'est de dire qui est-ce qu'il y a derrière le leur. Et donc, à l'inverse, c'est de se demander, quand ces personnes disent « nous », elles parlent de qui ? Et il y a un « nous », semble-t-il, assez fort, qui est un « nous » de genre, mais plutôt un « nous » de mère, nous les mères, ou nous les mères célibataires, qui renvoie à cette condition effectivement spécifique, hein, des familles monoparentales qui, de fait, sont des femmes seules avec enfants, mais qui, et ça c'est à explorer, on est en train de regarder pour le contexte genevois, ça va prendre des formes spécifiques, mais qui... un nous qui est considéré comme fragile, donc si on pense en termes politiques, fragmenté, parce que très vite divisé, si vous voulez. Ah oui, mais il y a les bonnes mères et les mauvaises mères. Et là, je rejoins de nouveau de façon complètement exploratoire, c'est enregistré, mais donc je le précise, c'est pas un résultat de recherche que je vous donne, c'est un résultat de sensibilisation aux entretiens qu'on a menés nous. C'est très très fort, et ça rejoint ce que des collègues ont trouvé à Berne, sur le fait qu'eux avaient quantifié ça. Plus de la moitié des personnes qu'ils avaient interrogées, qui avaient fait des démarches vers l'aide sociale à Berne, et puis qui n'y étaient pas revenues, je crois, disaient dans les entretiens téléphoniques, « Oui, mais on sait bien qu'il y a beaucoup d'abus, qu'il y a beaucoup de gens qui ne méritent pas l'aide sociale. » C'est-à-dire que ce discours sur l'abus, il est fortement... Alors, je ne sais pas si c'est intégré, parce que ça signifierait effectivement que ça va dans ce sens, mais en tout cas, il est fortement, vous le retrouvez. Et là, on le retrouve très clairement dans des entretiens de personnes qui vous disent, oui, il y a les bons, il y a les moins bons, il y a ceux qui abusent, il y a ceux qui n'abusent pas. Et puis, évidemment, se situent elles-mêmes parmi les personnes qui sont honnêtes et qui n'abusent pas. Et qui, du coup, c'est assez frappant quand on s'y attend pas comme ça, au fond, qui du coup vous tiennent des discours de soutien à des mesures de contrôle. Enfin, je veux dire, on dirait que c'est Poggia qui les a envoyés. Et mais qui vous expliqueront que c'est très important des mesures de contrôle, pas seulement parce qu'il faut enlever les méchants, enfin, mais parce que comme ça, ça leur permettra à elles de pouvoir faire recours et de se sentir légitimes, parce que si on contrôle vraiment, vous voyez là, si on contrôle vraiment, alors moi, quand j'irai demander, les autres sauront que moi, je suis honnête. De nouveau, ce n'est pas représentatif, c'est plusieurs entretiens qui poussent à aller dans ce sens, et si vous voulez, ça fait sens avec les autres travaux de la littérature sur le domaine. Donc, pour pratiquement conclure, qu'est-ce qu'on peut avoir comme hypothèse de travail à partir de ces résultats concernant le non-recours lui-même ? Je pense que si l'on est passé de la pauvreté dite marginale, pour reprendre mon début avec Pogam, à ce qu'on appelle la pauvreté, ou ce que Pogam appelle, et beaucoup avec lui, la pauvreté disqualifiante, qui maintenant serait une pauvreté qui... Une des caractéristiques de la pauvreté disqualifiante par rapport à la marginale, c'est que la marginale, ça concerne les marginaux, c'est-à-dire surtout pas vous et moi, tandis que la pauvreté disqualifiante, ça pourrait nous concerner, nous tous, et en tout cas, ça concerne beaucoup de gens qui risquent de se trouver socialement disqualifiés à partir de différentes situations de vie. Eh bien, je pense qu'effectivement, on peut interpréter le non-recours comme étant une non-adaptation d'une offre dans le cadre de stratégies de lutte pour, je dirais, contre, plutôt de lutte contre cette disqualification sociale. Hein, on ne veut pas de cette disqualification sociale, mais l'intuition serait que ça concerne effectivement beaucoup plus les hommes. À l'inverse, on pourrait dire, en toute hypothèse, que ce concept de disqualification sociale pourrait ne pas fonctionner véritablement pour les femmes, un peu comme la démarchandisation ne fonctionnait pas très bien pour les femmes, parce qu'au fond, le problème des femmes, ce n'est pas la disqualification sociale, c'est la qualification sociale, pour le dire comme ça. On a double disqualification dans ce cas-là pour les hommes, qui sont exclus du monde du travail, qui forment leur identité, et qui sont contestés dans leur masculinité, si vous voulez dire, qui doivent lutter là contre ces deux choses. Surtout en situation précaire, vous avez moins la possibilité de dire « je suis un nouveau père », etc. On a double subordination pour les femmes, qui ont deux choses à faire. D'une part, elles doivent se qualifier, trouver un emploi, si possible, suffisamment bien payé pour qu'elles puissent nourrir, se nourrir et leurs enfants, se former, etc. Donc lutter, en tout cas, contre des inégalités du marché du travail. Et en plus, et ça on le sent aussi dans les entretiens, très clairement leur agenda, c'est pas seulement ça, c'est se distancer ou s'émanciper de la subordination masculine, la domination masculine, pour utiliser un gros mot. Mais enfin, on le sent très clairement, des femmes qui disent « je ne veux plus rien avoir à faire, ni avec mon mari, ni avec mon ex-mari, et je peux m'en sortir seule, et je veux m'en sortir seule », et qui travaillent à cette émancipation-là, double tâche. Hein, double tâche. La double tâche, c'est pas seulement la conciliation et les heures travail-famille à faire. J'ai presque envie de dire, ça c'est rien. La double tâche, c'est lutter contre une double subordination en même temps quand on est dans une situation de précarité telle. Donc le non-recours signalerait l'inadéquation de l'offre perçue dans le cadre de stratégies qui sont des stratégies genrées mais qui ne pourront être comprises, c'est ce qu'on essaye de faire, qu'en les mettant dans une approche intersectionnelle, aussi pour utiliser un gros mot, donc en tenant compte évidemment des configurations de nationalité, en tout cas de permis, d'origine. Pour certaines femmes, c'est clair que c'est une disqualification parce qu'elles avaient un niveau d'études, elles ont des attentes plus hautes. Et l'importance de documenter, je reviens à mes enjeux de début, c'est-à-dire à mon histoire de David Bowie, visibilité et adéquation, documenter et comprendre ce non-recours qui est vraiment encore très très peu travaillé, très très peu connu, particulièrement en Suisse, peut-être bien pour éviter que les politiques de lutte contre la précarité, au fond, à générer ce type de non-recours, eh bien, contribuent à produire elles-mêmes, alors qu'elles ont pour mandat de faire l'inverse, contribuent à produire des inégalités, voire même à produire de la pauvreté par aveuglement. Alors, comme tout ça, je vous l'ai dit, est relativement exploratoire, j'ose pas conclure. Donc, ce que j'ai décidé de faire comme conclusion, c'est de donner juste la parole à deux personnes qui ont accepté d'être interviewées. J'avais d'ailleurs, en l'occurrence, interviewé assez récemment, juste pour vous, pour finir comme ça et leur donner le mot de la fin. Donc, je l'ai appelée Farida, qui est une Italienne d'origine marocaine, qui vit seule avec sa fille de 5 ans, et à qui j'ai demandé si elle se sentait pauvre. Hein ? Moi, je ne me sens pas pauvre, parce qu'avec la volonté, on peut faire tout. Je ne sens pas que je suis pauvre, parce qu'avec le travail, on peut gagner la vie. On peut vivre bien avec le travail, avec la volonté, avec des formations. À force d'améliorer les choses, on peut vivre bien. Elle continue sur une estimation, il lui faudrait 3-4 000 francs pour vivre. Et je dis, et vous, actuellement, votre travail, qu'est-ce que c'est ? C'est le ménage. Je fais 1h15 de ménage à la Migros le matin. C'est ça le contrat que j'ai maintenant. Et moi, je ne peux pas vivre avec 1h15. Moi non plus. Et la deuxième et dernière, pour vous réchauffer un peu, puisqu'on est parti sur le froid, c'est une Brésilienne qui vit avec son fils. C'est là aussi famille monoparentale. Moi, j'aimerais, si j'avais des conditions d'étudier, si j'avais des conditions, tout ça, je crois que je serais en politique. Peut-être pas président, je ne sais pas, je ne crois pas que j'arriverai là-bas, mais en tout cas dans la communauté, vous voyez quelque chose comme ça. Merci.